بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الباب السابع في الغسل وفيه مسائل donc le septième chapitre qui concerne le ghusl donc le lavage corporel et il y a dedans plusieurs questions المسألة الأولى معنى الغسل وحكمه ودليله donc la première question c'est de connaître la signification de الغسل et son statut et sa preuve أولا معناه الغسل لغة مصدر من غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا وهو تمام غسل الجسد كله donc الغسل c'est un nom dérivé du verbe غسلا qui veut dire laver quelque chose donc en arabe c'est le fait de laver tout son corps ومعناه شرعا تعميم البدن بالماء et dans la religion il signifie le fait d'englober son corps par l'eau c'est-à-dire de laver tout son corps aussi أو استعمال ماء طهور في جميع البدن على صفة مخصوصة على وجه التعبد لله سبحانه ou alors c'est le fait d'utiliser une eau pure dans tout le corps d'une façon particulière avec l'intention d'adorer Allah Azza wa Jal ثانيا حكمه deuxièmement le statut du غسل والغسل واجب إذا وجد سبب لوجوبه donc le غسل il est obligatoire quand il y a une cause qui le rend obligatoire لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا conformément donc au verset qui dit et lorsque vous êtes junub c'est-à-dire en état de janaba alors purifiez-vous والأحاديث التي ورد فيها كيفية الغسل عن عدد من الصحابة نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دلة على وجوبه et les différents hadiths qui ont été ramenés dans la description du ghusl que les compagnons ont décrit ou les compagnons ont décrit la manière de faire le ghusl selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam il montre que le ghusl est obligatoire وسيأتي طرف منها قريبا إن شاء الله بياتو وسيتي سي ديفيرون حديث ثالثا موجباته donc troisièmement qu'est-ce qui rend le ghusl obligatoire donc il y a cinq choses أولا خروج المني من مخرجه ويشترط أن يكون دفقا بلذة من ذكر أو أنثى لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولقوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل donc il dit premièrement la sortie du sperme de son orifice habituel à condition que ce soit une sortie avec jouissance et que ce soit d'un homme ou d'une femme c'est-à-dire parce que la femme elle est considérée aussi dans l'islam comme ayant un liquide équivalent au sperme de l'homme conformément au verset qui dit si vous êtes en état de janaba alors purifiez-vous Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, lorsque tu sors l'eau, c'est-à-dire en fait, il a dit ça en fait par ça vous trouvez beaucoup dans des versets du Coran ou dans des hadiths, au lieu de nommer les choses par son nom, il donne entre guillemets une image. Donc là il dit quand tu sors l'eau, en fait ce qu'il veut dire c'est quand tu éjacules, alors fais le lavage. Ce hadith il est dans les Sunan d'Abi Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ma lam yakun na'iman wa nahwi فلا تشترط اللذة لأن النائم قد لا يحس به sauf s'il est en état de sommeil parce que s'il dort c'est-à-dire quand je dis sauf c'est-à-dire n'est pas conditionné la jouissance pour celui qui est en état de sommeil parce que quand il est en état de sommeil il peut avoir une éjaculation sans sentir la jouissance ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على المرأة غسل إذا احتلمت قال نعم إذا رأت الماء وهذا كله مجمع عليه. Et aussi conformément au hadith, lorsque quelqu'un il avait demandé au prophète, c'est une femme qui a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que quand la femme elle fait un rêve érotique, elle doit faire le ghusl? Et il a dit oui si elle voit l'eau. L'eau qu'elle a, en fait, son eau à elle, c'est-à-dire l'eau qu'elle a, entre guillemets, éjectée pendant quand elle a eu son rêve érotique, comme l'homme y fait. Donc en fait, pour montrer que comme l'homme, s'il éjacule, avec un rêve érotique, il doit se laver, la femme aussi. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend ? On en comprend que même si c'est en dormant, et sachant qu'en dormant, tu sens pas forcément la jouissance. Et des fois, au réveil, tu te souviens pas avoir eu une jouissance. Donc, si tu vois les traces du rêve érotique, eh ben donc tu dois faire le ghusl. Ça, ce hadith, il est dans Sahih Muslim. Et tout ce qu'il a cité jusqu'à maintenant, c'est sur des questions ou qui soit sujet à consensus entre les ulama. Il n'y a pas de divergence dans ces sujets-là. ثانيا تغييب حشفة الذكر كلها أو قدرها في الفرج عفوا، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. Aussi le fait de faire pénétrer la partie supérieure du sexe de l'homme dans celui de la femme. Même s'il n'y a pas d'éjaculation, ça entraîne l'obligation du ghusl. Conformément au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsqu'il s'assoit, c'est-à-dire quand l'homme s'assoit entre ses quatre branches, en fait ce qui veut dire les quatre membres de la femme, et que el-khitan touche el-khitan, c'est quoi el-khitan? C'est l'endroit où il y a la circoncision. Donc l'endroit circoncis touche l'endroit circoncis. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam y parlait. Il disait pas les mots tels quels. Il disait des choses qu'il nous faut comprendre sans dire les mots clairement. Et que donc el-khitan touche el-khitan, alors le rousse est obligatoire. C'est-à-dire quand l'homme se met sur sa femme, mais il a bien précisé, c'est pas simplement le fait de s'allonger sur elle, et que el-khitan touche el-khitan, c'est-à-dire qu'il y a pénétration, alors le rousse devient obligatoire. Ça, ce hadith est dans Sahih Muslim. Donc même s'il n'y a pas, il n'a rien fait sortir. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن عشر أو بنت تسعين فما فوق. Il dit mais c'est obligatoire que pour une personne qui a au moins 10 ans ou une fille qui a au moins 9 ans. ثالثا إسلام الكافر ولو مرتدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل. Troisièmement, celui qui se convertit à l'islam, même si c'était déjà un musulman à l'origine et qui est sorti de l'islam par exemple en s'étant moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en ayant associé à Allah et qu'il rentre à l'islam de nouveau, il doit faire le ghusl, ou alors le non-musulman de base qui se convertit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait ordonné à un compagnon qui s'appelait Qais ibn Asim de se laver quand il est rentré dans l'islam. Ça c'est un hadith qui est dans les sunan et qui est aussi authentifié par Cheikh al-Albani. Quatrièmement, donc, aussi le fait, donc, cette question-là, par contre, c'est une question à divergence. Quand, la deuxième question qu'on a vue, c'est-à-dire le fait de pénétrer, il y avait une divergence à son sujet chez les Sahaba au début de l'islam. Parce qu'il y a un hadith que vous pouvez trouver dans Sahih al-Bukhari, où un homme, c'est-à-dire le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait appeler un homme. Et l'homme, il est sorti, et il était plein d'eau. Et le prophète, il lui a dit, la'allana a'jannak, il lui a dit, peut-être qu'on t'a pressé. C'est-à-dire que tu étais en train de faire ce que tu étais en train de faire, et nous on t'a fait couper ton truc. Et l'homme il a dit na'am, vous m'avez coupé en pleine action entre guillemets. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit idha ujilta aw ukhitta fala rusla alayk wa alayk al-wudu. Il lui a dit quand on te coupe ton rapport sexuel, alors il ne te suffit que de faire les ablutions, puisqu'il n'y a pas éjaculation. Mais ça, il y a certains sahaba qui faisaient la fatwa conformément à ce hadith. Mais il y a un hadith, une parole de Ubay ibn Ka'b, radiallahu anhu, qui est dans les sunan, où il dit ça, c'était au début de l'islam. Et après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a obligé le ghusl de la simple pénétration, même sans éjaculation. Et après les sahaba, ils faisaient tous la fatwa, et c'est devenu un sujet sans divergence, en fait, que la simple pénétration, elle englobe le ghusl, elle entraîne le ghusl. Alors que la question de celui qui se convertit, est-ce qu'il doit faire le rousse, ça c'est une question à divergence. Donc je vous le dis quand je vous cite des questions. Ici ils ont dit il lui est obligatoire. D'autres ulama ils disent non. Ils disent ça lui est obligatoire s'il était en janaba avant de se convertir. Si par exemple il n'avait pas fait de janaba avant de se convertir, c'est pas obligé. En fait ils ont rattaché ça à la janaba seulement. Et d'autres ils ont dit non, c'est pas rattaché à la janaba, c'est rattaché au changement de religion, au fait qu'il rentre dans l'islam. C'est à cause de ça qu'il doit le faire. Et les hadiths à ce sujet, il y en a plusieurs. C'est-à-dire, il n'y a pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté qu'à plusieurs compagnons, il a ordonné de faire le ghusl.
Rabi'an inqita'u dami al-haydi wa an-nifas. Li hadith Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala li Fatimah bint Abi Hubaysh: "Idha aqbalat al-haydatu fad'i as-salah wa idha adbarat faghtasili wa salli wa an-nifas kal-haydi bil-ijma'." Quatrièmement, l'interruption du sang des règles, c'est-à-dire la fin des règles, ou la fin de ce qu'on appelle un nifas. Un nifas, c'est les effusions de sang qui sortent du sexe de la femme après l'accouchement. Donc, conformément au hadith où Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit à Fatima bint Abi Hubaysh, il lui a dit quand tes règles arrivent délaisse la salat, et quand elles repartent, c'est-à-dire quand elles sont finies, lave-toi et fais la prière, c'est-à-dire fais le roussel. Donc le fait de que la fin des règles arrive, ça entraîne l'obligation du roussel avant de commencer la prière. Et par consensus des ulama, un nifes est comme les règles dans ce sujet, un nifes qui est les effusions de sang après la grossesse. خامسا الموت لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث غسل ابنته زينب حين توفيت اغسلنها وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر وذلك تعبدا لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه. Cinquièmement, la mort, donc conformément au hadith où le prophète صلى الله عليه وسلم il avait ordonné aux femmes qui s'occupaient donc de la dépouille de sa fille Zainab, quand elle est morte, il a dit lavez-la. Et aussi il a dit par rapport à une personne qui était morte alors qu'elle allait au Hajj, le Muharim, il a dit lavez-le avec de l'eau et du cidre. Le cidre, c'est la plante verte, là, les petites feuilles vertes qu'on peut trouver maintenant dans les librairies. Et c'était l'équivalent de leur savon à l'époque. C'est-à-dire si tu le manipules d'une certaine façon avec l'eau, tu arrives à le faire mousser et ça fait comme un savon. Tu peux te laver la peau et les cheveux avec. Donc ça c'est deux hadiths qui montrent eux, et donc le fait de laver le mort c'est bien connu dans l'islam. C'est deux hadiths qui sont dans le Bukhari et Muslim. La deuxième question, il dit al-mas'ala thaniya fi sifati al-ghusli wa kayfiyatuhu. Deuxièmement, le fait de savoir comment on fait le ghusl. Lil-ghusli min al-janabati kayfiyatan, kayfiyatu istihbab wa kayfiyatu ijza. Donc premièrement, le ghusl a deux façons de se faire. Une façon qui est recommandée et une façon qui est juste suffisante pour enlever la janaba. Amma kayfiyat al-istihbab fa hiya an yaghsila yadayhi thumma yaghsila farjahu wa ma asabahu min al-adha. Donc la façon recommandée, c'est que la personne elle lave d'abord ses mains, puis elle lave son sexe, puis elle lave ce qui a pu avoir comme impureté sur son corps. ثم يتوضا وضوءه للصلاه. Ensuite il fait ses ablutions comme si il allait faire la prière, donc c'est-à-dire complète. ثم ياخذ بيده ماء فيخلل به شعر راسه مدخلا اصابعه في اصول الشعر حتى يروي بشرته. Ensuite il prend de l'eau dans sa main et il la fait pénétrer dans ses cheveux et il fait rentrer ses doigts dans ses cheveux jusqu'à son cuir chevelu, jusqu'à ce qu'il fasse toucher, jusqu'à ce que l'eau pénètre jusqu'à sa peau. ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات. Ensuite, il verse sur sa tête trois fois de l'eau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas la peine de prendre un seau, il le faisait simplement avec ses deux mains, c'est tout. Il faut pas la quantité, elle est pas c'est pas une grande quantité qui est demandée. ثم يفيض الماء على سائر بدنه. Ensuite, il verse l'eau sur le reste de son corps. Les hadith عائشة المتفق عليه. Conformément au hadith de Aïcha. En fait, il y a deux hadiths. Un hadith de Aïcha, radiallahu anha, et un hadith de Maymouna. Ces deux femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elles ont décrit le rousse du prophète. Donc les deux, elles ont décrit de la même façon. Comme quoi, au début, il lave ses mains, après, il lave ses parties intimes, après, il commence ses ablutions. Donc, c'est-à-dire, il relave ses mains, sa bouche, son nez, etc. Il fait ses ablutions normales. Et après, il fait son rousse. C'est-à-dire, il commence par verser trois fois de l'eau sur sa tête. Non, d'abord, avant ça, il fait pénétrer l'eau jusqu'à son cuir chevelu. Après, il verse l'eau trois fois sur sa tête. Et après, il lave son corps. Et là, il a fini. On peut juste ajouter que il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui disait Bismillah avant de faire le ghusl. Donc, on peut aussi dire Bismillah. Amma kayfiyatul izza an yu'imma badanahu bilma ibtida'an ma'anniya li hadith maymouna. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرع على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل جسده فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه ومثله حديث عائشة وفيه ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. Il dit la façon qui est juste suffisante, c'est de faire passer l'eau sur tout son corps, tout simplement avec la niya, avec la niya de faire le ghusl. Donc conformément au hadith de Maimouna, où elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé son eau destinée à janaba, c'est-à-dire l'eau pour son ghusl. Il a versé l'eau sur ses mains, qu'il a lavé deux ou trois fois, puis il a fait al-madmada wa al-istinshaq, c'est-à-dire la bouche et le nez, puis il a lavé son visage et ses avant-bras, puis il a versé l'eau sur sa tête et il a lavé son corps. Puis je lui ai tendu une serviette et il n'a pas voulu la prendre et il a enlevé l'eau avec sa main. C'est-à-dire il faisait comme ça, il y a une faute. C'est-à-dire il n'a pas voulu s'essuyer, il a enlevé l'eau avec sa main. Donc ici elle n'a pas mentionné les ablutions complètes avec l'essuyage de la tête, le lavage des pieds, etc. Elle a juste dit, il a fait le madmada, l'istinchar, il a lavé son visage, ses avant-bras et après il a lavé tout son corps. Et il dit, c'est pareil dans le hadith de Aïcha où elle a dit qu'il a yukhallil, c'est-à-dire il masse les cheveux de sa tête avec sa main, c'est-à-dire pour faire entrer l'eau dedans, jusqu'à ce que quand il pense que l'eau a atteint sa peau, il verse l'eau sur lui trois fois et il lave le reste de son corps. Voilà, yajibu ala al-mar'a. Donc en fait, ce qu'on comprend ici, c'est que si tu veux faire les ablutions de façon complète, tu fais d'abord plutôt le ghusl. En fait, tu fais d'abord les ablutions complètes et après tu fais les grandes ablutions. C'est-à-dire tu laves ta tête trois fois et le reste de ton corps. Et si tu veux faire le minimum, tu fais la bouche et le nez et tu laves tout ton corps. C'est-à-dire tu peux te mettre sous la douche et t'attends que l'eau elle passe partout. Et tu fais bien attention que l'eau elle passe partout et qu'elle ait pénétré jusqu'à ton cuir chevelu. Donc sans qu'il y ait trois fois, sans qu'il y ait commencé par ci ou par ça. Et dans les deux façons, ça il faut le savoir, c'est que les deux, tu peux prier tout de suite après. C'est-à-dire même si dans ton roussel, t'as pas fait tes ablutions, tu peux prier. Parce qu'il y en a, ils pensent que le roussel, ça enlève le hadith al-akbar sans l'asr, mais non. Le roussel, qu'il soit comme ça ou comme ça, il te permet de faire la salat, puisqu'il englobe la pureté, entre guillemets, petite. La petite pureté, la petite purification. Ensuite, il dit... ولا يجب على المرأة نقض شعرها في الغسل من الجنابة. Il dit, et il n'est pas demandé à la femme de défaire ses tresses quand elle se lave pour الجنابة. ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض لحديث أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. Mais elle doit le faire quand c'est le ghusl pour les règles. Donc conformément au hadith de Umm Salama, radiallahu anha, qui a dit, j'ai dit au messager d'Allah, je suis une femme qui attache ses cheveux. Est-ce que je dois les défaire pour me laver de al-janaba? Il lui a dit non, il te suffit de verser l'eau trois fois sur toi, sur ta tête, puis de la verser sur toi et tu es pur. C'est-à-dire de verser trois fois l'eau sur sa tête, même si elle ne défait pas ses tresses. Donc elle passe l'eau sur sa tresse et sur ses cheveux sans les défaire, ou si elle a un chignon, etc., et ensuite sur son corps. Et quand ils disent ici par contre si c'est pour les règles elle doit le faire, il faut, en fait là à mon avis ce qu'ils veulent dire c'est que c'est préférable par propreté par exemple, mais sinon les ulama ils font pas de différence, ils disent quel que soit le roussel qu'elle fait la femme, elle n'est pas obligée d'enlever ses tresses. Il y a une version de l'imam Ahmed qui a été rapportée comme quoi il dit que si c'est pour les règles il faut qu'elle défasse ses tresses. Mais la preuve des gens de l'école Hanbalite à ce sujet, c'est un hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Aïcha, il lui a dit lave-toi et défais tes cheveux. Mais quand on regarde le contexte au moment duquel il a ordonné ça à Aïcha, c'était l'histoire quand Aïcha et le prophète ils allaient au Hajj. Et à ce moment-là, elle avait ses règles. Et le moment où il lui a dit, si on regarde le contexte du hadith, elle avait encore ses règles. Donc en fait, c'était pas son roussel des règles, c'était un roussel comme ça par propreté, parce qu'elle allait partir à Mecca. C'est tout. Ça n'avait rien à voir avec les règles. Donc les ulama, ils ont dit, on peut pas dire de ce hadith que le fait qu'il lui a dit défait tes tresses, c'était pour les règles, puisqu'elle était encore dedans. C'était pas son roussel des règles. Donc il n'y a pas de différence entre les règles et le janaba. Dans les deux, elle peut laisser ses cheveux attachés. المسألة الثالثة, la troisième question. Donc le hadith de Umm Salama, il est dans Sahih Muslim. Donc de la troisième question, al-arsal al-mustahabba, le ghusl qui est conseillé et non pas obligatoire. تقدم بيان الأغسال الواجبة وما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي أولا الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا قال هذا أزكى وأطيب وطهر. Le premier ghusl qui est conseillé, c'est le ghusl qu'on fait à chaque rapport sexuel. C'est-à-dire, par exemple, tu as fait un rapport sexuel et tu veux en faire un deuxième. Il n'y a pas de salat entre les deux. S'il y a salat, donc tu es obligé de faire le ghusl. Mais là, il n'y a pas de prière. La prière, elle est dans 3 heures. Et tu veux refaire. Eh bien, il est conseillé, c'est-à-dire c'est préférable, c'est pas obligatoire, de faire le ghusl pour chaque jima', pas seulement pour la salat. Puisque dans un hadith, donc Abu Rafi' il raconte que pendant une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des rapports avec plusieurs de ses femmes et il se lavait à chaque fois. Et un compagnon il lui a dit, pourquoi tu ne le fais pas qu'une fois? Et il lui a dit, ça c'est plus pur, c'est mieux et c'est plus pur. Donc c'est conseillé. Et il y a d'autres hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois il faisait le tour de ses femmes avec un seul roussel. Il faisait le roussel qu'à la fin. Donc que tu fasses l'un ou l'autre, il n'y a pas de problème, mais le mieux c'est de faire le roussel à chaque fois. Ce hadith il est dans les Sunan d'Abi Daoud et il est authentifié par Cheikh Al-Albani. Thaniyan, al-ghuslu lil-jumu'ah. Si ce n'est qu'ici on peut rappeler que il est aussi conseillé à celui qui veut refaire un rapport de faire les ablutions. Comme on avait vu le hadith de Omar ibn Khattab, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait bien dit إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ وضوءه للصلاة فإنه أنشط للعود. Il a dit, lorsque l'un d'entre vous va à sa femme et qu'il veut revenir, qu'il fasse les ablutions qu'il fait pour sa prière, parce que c'est plus à même de le renforcer pour revenir à sa femme. Donc c'est conseillé de faire ses ablutions. ثانياً الغسل للجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وهو آكد الأغسال المستحبة. Deuxièmement, le ghusl, le lavage du jour du vendredi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, lorsque l'un d'entre vous va au Jumu'ah, qu'il se lave. Et c'est le plus conseillé, entre guillemets, dans tous les rousles qui sont conseillés, ça c'est le plus insisté. C'est un mot akkad. Ce hadith il est dans le Bukhari. Il y a beaucoup de hadiths. Il y a des hadiths qui poussent et qui obligent aux musulmans de faire le Jumu'ah. Et il y a un autre hadith qui dit, إذا توضى أحدكم للجمعة فبها ونعمة وإذا اغتسل فالغسل أفضل. Il y a un hadith qui dit, si l'un d'entre vous fait ses ablutions pour aller au Jumu'ah, alors c'est bien. Et s'il fait le ghusl, eh bien le ghusl est mieux. Donc c'est-à-dire que les preuves, les hadiths qui concernent le ghusl, il y en a, celui-là il te fait comprendre que c'est pas obligatoire, et d'autres ils te font comprendre que c'est obligatoire. Il y a même un hadith qui dit wajibun ala kulli muslim. Il est obligatoire à chaque musulman de faire le ghusl. Donc comment on peut trancher, sachant que des ulama ils ont dit on prend les hadiths qui montrent que c'est obligatoire, d'autres ils ont dit non on prend les autres, on dit que c'est pas obligatoire. Si on regarde dans les paroles des sahaba, on trouve que donc c'est soit Aïcha radiallahu anha ou soit Ibn Abbas, c'est un des deux, il dit ça, donc dans un affaire authentique, que le ghusl du Jumu'ah c'était obligatoire au début de l'islam, parce que les sahaba ils avaient que de la laine à mettre. Et donc quand ils venaient au Jumu'ah, ils étaient très nombreux, il y avait des odeurs de transpiration. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a obligé de faire le ghusl. Et que quand ils se sont enrichis et ils pouvaient porter du coton et d'autres des vêtements moins lourds, moins chauds, eh bien c'est devenu simplement préférable. Et la parole en vérité qui regroupe le plus et qui prend tout ça, c'est la parole d'Ibn Taymiyyah rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, comme il a dit le sahabi, que c'était obligatoire au début. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des odeurs. Et qu'après c'est devenu préférable. Donc on en garde quoi? Que c'est resté mustahab, c'est pas obligatoire. Sauf pour qui? Pour celui qui a des odeurs. Par exemple, quelqu'un il va travailler vendredi matin et il va sentir la transpiration. Celui-là il lui est obligé, comme il était obligé au début de l'islam. Parce que c'est quoi qui l'avait rendu obligatoire au début de l'islam? C'était les odeurs. Donc si une personne, malgré que le rousse, là, maintenant il soit juste préférable, elle a maintenant des odeurs, et bien il lui est demandé de le faire de façon obligatoire pour pas qu'elle nuise aux gens qui sont à la mosquée. Sinon le rousse du Jumu'ah il reste simplement préférable. Ça, c'est aussi la parole de la grande majorité des ulama, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas obligatoire. Thalithan al-irtisalu lil-aidain. Le troisièmement, c'est le fait de se laver pour le jour de l'Aïd, dans les deux Aïds. Rabi'an al-irtisalu inda al-ihrami bil-umrati wal-hajj. Fa'innahu, sallallahu alayhi wa sallam, irtasala li-ihramihi. Le fait aussi de faire le ghusl quand on fait l'ihram. L'ihram, c'est l'état de sacralisation pour la umra ou pour le hajj. C'est-à-dire, c'est quand tu fais ta, quand tu as niya. C'est-à-dire quand tu dépasses le miqat, l'endroit à partir duquel, selon la région d'où tu viens, il y a un endroit à partir duquel tu dois être en état d'ihram. Donc à ce moment-là, il était préférable de faire le ghusl. Khamisan, al-ghuslu min ghusli al-mayyit liqawlihi, al-ghuslu min ghusli al-mayyit liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Et cinquièmement, comme ça a été cité dans Ibn Majah et authentifié par Sheikh al-Albani, le ghusl pour celui qui a lavé un mort. Conformément au hadith où le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui lave un mort, qu'il se lave. Et c'est pas obligatoire, alors que le hadith, si on le prend tout seul, on peut dire que c'est obligatoire. Mais il y a d'autres hadiths qui nous montrent que c'est pas obligatoire, comme la parole d'Ibn Omar, radiallahu anhuma, qui disait, à l'époque du prophète, on lavait un mort, et certains d'entre nous se lavaient, et d'autres ne se lavaient pas. Donc c'est-à-dire que c'est pas obligatoire, mais c'est préférable. المسألة الرابعة, la quatrième question, الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. Donc quatrièmement, les statuts et les règles de celui qui doit faire le ghusl, c'est-à-dire celui qui est en état de janaba. Qu'est-ce que ça entraîne pour lui? الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها فيما يأتي. Donc il dit, on peut résumer ça dans les cinq points suivants. أولا, لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل. لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الوضوء يخفف الحدث والوضوء أحد الطهورين. Premièrement, il lui est interdit de rester dans la mosquée. Ça, c'est vrai aussi pour la femme qui a ses règles. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de rester dans la mosquée sauf si il passe son chemin, comme il est cité dans le verset du Coran, donc de ne pas approcher la salat si vous êtes en état de janaba, sauf en passant votre chemin jusqu'à ce que vous vous laviez. Sauf si il fait les ablutions, là il peut rentrer et s'asseoir dans la mosquée. Parce que ça a été rapporté de plusieurs compagnons du prophète, ils le faisaient à l'époque du prophète. Quand ils étaient en janaba, ils voulaient rentrer dans la mosquée, ils faisaient les ablutions et là ils s'asseyaient. Et aussi parce que le wudu, les ablutions, elles allègent l'impureté. Deuxièmement, ثانياً, لا يجوز له مس المصحف. Bien sûr, deuxièmement, il lui est interdit de toucher le livre qui porte le Coran, le mushaf. لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر. Conformément au verset qui dit ne le touche que les purifiés, et au hadith qui dit nul ne touche le mushaf si ce n'est un purifié. Et conformément, donc ce hadith il est dans Al-Muwatta et authentifié par Cheikh Al-Albani. Et conformément, je vous avais dit au fatwa des compagnons, comme quoi celui qui n'a pas ses ablutions ou qui est en état de janaba, il n'a pas le droit de toucher le mushaf. Thalithan, la yajuzu lahu qira'atul Qur'an. Troisièmement, il lui est interdit de lire le Coran. Donc lire le Coran, c'est pas comme toucher le mushaf, c'est deux choses différentes. Ce qu'on veut dire ici par lire le Coran, c'est le réciter comme ça, sans porter le livre. Juste le réciter par cœur. Ça, c'est interdit à celui qui est en état de janaba. فَلَا يَقْرَأُ الْجُنُوبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ حَتَّى يَغْتَسِلْ لِحَدِيثِ عَلِي قَالَ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةِ. Conformément donc au hadith de Ali qui a dit, radiallahu anhu, rien n'empêchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lire le Coran si ce n'est al-janaba, l'état de janaba. Ça, ce hadith, il est dans divers livres de Sunan et dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Et ils disent ici, Ibn Hajar, rahimahullah, a cité que Ibn Sakan et Abd al-Haq et al-Baghawi ont authentifié ce hadith. Et ce hadith, il est renforcé par aussi des fatwas des compagnons qui interdisaient la lecture du Coran à celui qui est en état de janaba. وَلِأَنَّ فِي مَنْعِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ حَثًّا لَهُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْإِغْتِسَالِ Et aussi parce que le fait d'interdire à celui qui est en état de janaba de lire le Coran, ça va le pousser à se laver le plus vite possible. Et ça, c'est demandé.
ويحرم عليه أيضا الصلاة والطواف بالبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس.
Il lui interdit aussi de faire la prière et de tourner autour de la Kaaba, comme on l'a déjà expliqué dans le chapitre des ablutions.
الباب الثامن, le huitième chapitre, في التيمم وفيه مسائل.
Donc sur التيمم.
التيمم لغة القصد وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى.
Dans la langue arabe, التيمم c'est l'intention. Et dans la religion, c'est de suer son visage et ses mains avec الصعيد الطيب, c'est-à-dire avec la terre pure, d'une façon précise, avec l'intention d'adorer Allah عز وجل.
المسألة الأولى حكم التيمم ودليل مشروعيته.
Donc premièrement, le statut du tayammum est la preuve de sa légifération.
التيمم مشروع وهو رخصة من الله عز وجل لعباده وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة.
Donc le tayammum, il est légiféré et il est une permission d'Allah, une facilité d'Allah pour ses serviteurs, et il fait partie des bons aspects de cette religion et des spécificités de cette communauté. C'est-à-dire les communautés d'auparavant, elles n'avaient pas le tayammum.
لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
Donc comme dans le verset de المائدة où Allah nous décrit les ablutions, il dit: et si vous êtes malade ou en voyage ou que l'un d'entre vous a été aux toilettes ou a touché les femmes et que vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum, c'est-à-dire utilisez pour le tayammum de la terre pure, essuyez avec vos faces et vos mains.
Ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj.
Allah ne veut pas vous mettre de la difficulté. Walakin yuridu liyutahhirakum. Mais il veut vous purifier. Waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Et complétez son bienfait sur vous, afin que vous soyez reconnaissant.
ولقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك.
ولقوله صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا وطهورا.
Donc aussi il y a deux hadiths. Le premier qui dit: la terre pure te suffit si tu ne trouves pas d'eau même pendant 10 ans, et si tu trouves l'eau alors c'est-à-dire mets-la contre ta peau, c'est-à-dire utilise-la dans tes ablutions.
Ça, ce hadith, il est dans Abi Daoud et Tirmidhi, authentifié par Sheikh Al-Albani.
Et l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est un hadith où le prophète a dit c'est les spécificités qui lui ont été accordées. Il a dit: la terre m'a été donnée comme un lieu de prière et une purification, c'est-à-dire il peut se purifier avec la terre, chose qui n'était pas vraie pour les prophètes d'avant lui. Ça, c'est dans Sahih Al-Bukhari.
وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه وأنه قائم مقام الطهارة بالماء فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك.
Donc les gens de science sont tous d'accord sur le fait que التيمم, quand ces conditions sont remplies, est permis et légiféré, et qu'il remplace la purification avec l'eau, et qu'il permet de faire tout ce qui est permis avec les ablutions, comme le tawaf ou la prière ou le fait de lire le Coran et autres encore.
وبذلك ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع.
المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له.
Donc la deuxième question, ce sont les conditions du tayammum et les causes qui permettent de faire التيمم.
يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد.
Donc il est permis de faire التيمم lorsqu'on ne peut pas utiliser l'eau, soit parce qu'on n'en a pas, ou soit parce qu'on craint, si on utilise l'eau, d'un mal pour la personne, à cause d'une maladie dans son corps ou à cause du froid intense.
لحديث عمران بن حسين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك.
Donc il rappelle ici le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prends la terre pure, elle te suffit. » وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. Et ils vont réexpliquer ça par la suite. ويصح التيمم بالشروط الآتية. Donc le tayammum, il est valable avec les conditions suivantes. أولا النية. Donc premièrement l'intention, comme on l'a déjà expliqué, puisque c'est pour toutes les adorations. Et comme condition dedans, il y a les intentions. Et comme le tayammum est une adoration, on doit avoir l'intention d'adorer Allah avec. ثانيا الإسلام. فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. Deuxièmement, d'être musulman, puisque ce n'est pas valable d'un non-musulman. ثالثا العقل. فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. Troisièmement, la raison, puisque ce n'est pas valable venant de quelqu'un qui a perdu la raison. رابعا التمييز. فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة. Quatrièmement, le fait de la distinction, c'est-à-dire savoir distinguer les choses, qui est à peu près à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire un enfant en dessous de 7 ans, le tayammum il n'est pas valable pour lui. خامساً تعذر استعمال الماء إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. Donc aussi la cinquième, c'est le fait de ne pas pouvoir utiliser l'eau, soit parce qu'il n'y en a pas, comme Allah il a dit dans le Coran, si vous ne trouvez pas d'eau, alors faites le tayammum avec de la terre pure. Et le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qui est dans Tirmidhi, la terre pure purifie le croyant, même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Et s'il trouve l'eau, alors qu'il lave sa peau avec. أو لخوفه الضرر باستعماله إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء. Ou alors s'il a peur d'un mal à l'utilisation de l'eau, comme une maladie qu'il craint qu'elle augmente, ou alors sa guérison retarde à cause de l'eau. Donc retenez bien, soit tu as peur que la maladie elle augmente, ou soit tu sais qu'elle ne va pas augmenter avec l'eau, mais tu sais qu'à cause de ça, ça va retarder ta guérison. لقوله تعالى وإن كنتم مرضى conformément au hadith ici et si vous êtes, au verset pardon et si vous êtes malade. ولحديث صاحب الشجة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله هل سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال. Et aussi conformément au hadith de la personne qui s'était blessée à la tête et qui avait fait le ghusl et qui était morte, et le prophète il a dit quant aux gens qui étaient avec lui, ils l'ont tué qu'Allah les tue. Pourquoi n'ont-ils pas posé la question s'ils ne savaient pas? Car la guérison de l'ignorance, c'est de questionner. Donc le hadith, pour qu'on rappelle un peu, c'est quand un homme il s'était blessé à la tête, il avait demandé aux gens qui étaient avec lui, est-ce que vous pensez que je peux faire le tayammum? Ils lui ont dit non. Et il a fait le roussel, et ça s'est infecté, il est mort. Et le prophète, il les a blâmés. C'est-à-dire, il leur a dit qu'il aurait pu faire le tayammum. أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلك باستعمال الماء لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح. Ou alors parce qu'il fait très froid et il craint que si à cause du froid il tombe malade ou il meurt en utilisant l'eau. Donc conformément au hadith de Amr ibn al-As radiallahu anhu qui a dit que quand le prophète l'a envoyé dans une bataille, il a eu une éjaculation pendant la nuit et il faisait très très froid et il a dit j'avais peur que si je me lave je meurs, alors j'ai fait le tayammum et j'ai prié imam devant mes compagnons puisqu'il était le chef du groupe. Et quand il a raconté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il l'a pas blâmé, il a accepté ce qu'il a fait. Ça c'est dans le Musnad de l'imam Ahmed et les Sunan d'Abi Daoud et authentifié par Cheikh Al-Albani. Sadisan an yakun at-tayammum bi turabin tahurin ghayr najis kat-turab alladhi asabahu bawlun wa lam yutahhir min lahu ghubarun yu'allaqu bil yadi in wajadahu li qawli ta'ala fatayammamu sa'idan tayyiban. Sixièmement, c'est qu'il fasse le tayammum avec at-turab. At-turab, c'est la terre, la poussière de la terre. qui ne soit pas impur, comme la terre sur laquelle il y aurait eu de l'urine et qui a pas été purifiée par exemple, et que ce soit une terre qui est l'roubar. L'roubar, ça veut dire qu'il y a de la poussière de terre dessus qui reste sur la main quand il fait le tayammum. Ce qu'ils veulent dire ici, par exemple, faut pas que ce soit un rocher plat où il n'y a pas de, où il n'y a rien quand tu fais le tayammum dessus, il n'y a rien qui reste collé sur ta main. Parce que dans le verset du Coran, Allah il dit essuyez-en vos faces et vos mains. Donc certains ulama, ils ont dit, ça implique, s'il dit essuyez-en, ça veut dire que il faut que la terre elle reste sur tes mains quand tu fais ça.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر.
ابن عباس disait الصعيد qui est cité dans le Coran, la terre, c'est-à-dire تراب الحرث, c'est-à-dire le التراب. تراب c'est comme quand il y a de la terre et tu tapes et tu vois sur ta main il reste la poussière de la terre, c'est ça التراب. Et il a dit الطيب, c'est-à-dire le pur.
فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر.
Ils disent, et si il ne trouve pas ça, eh ben il fait ce qu'il peut. Il fait le tayammum avec du sable ou avec une pierre. C'est-à-dire, il tape sur le sable ou sur la pierre.
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قال الأوزاعي الرمل من الصعيد.
Et conformément à la parole d'Allah qui dit, craignez Allah autant que vous pouvez. الأوزاعي, donc un des imams de la génération de l'imam Malik, rahimahumullah, dit, الرمل, c'est-à-dire le sable, fait partie de الصعيد. Donc ça c'est une question à divergence entre les ulama. Certains ils disent il faut qu'il y ait quelque chose qui reste accroché à la main. D'autres ils disent non. Tout ce qui vient de la terre et qui est du genre de la terre, tu peux faire le tayammum avec. Donc que ce soit la grosse terre comme quand on fait le jardin par exemple, ou que ce soit du sable, ou que ce soit une pierre, tout ça ça vient de la terre, donc tu peux faire le tayammum avec, même s'il n'y a rien qui reste collé à tes mains. D'autres ils disent non. Ce qui est voulu dedans c'est turab, c'est-à-dire la poussière de la terre. Donc pour sortir de la divergence, le mieux, si tu as l'équivalent de la terre ou il y a quelque chose qui reste collé à ta main, c'est de le faire avec ça. Sinon, bah, tu prends ce que tu as, comme une pierre lisse ou ce que tu peux trouver.
Certains ulama, comme par exemple Ibn Taymiyyah, il dit, ce qui prouve qu'il n'est pas obligé que la poussière elle reste à ta main, c'est que les sahaba ils voyageaient et il n'a pas été rapporté d'eux qui prenaient de Turab pour le transporter avec eux, sachant que des fois ils voyageaient dans des terres où il n'y avait pas de Turab. Là, c'était des cailloux ou de la terre lisse. Et pourtant, ils faisaient Tayammum dessus. Ils ne transportaient pas exprès de Turab. Donc, ce qui prouve que ce qui est voulu, c'est que ce soit la terre. Donc, que ce soit par exemple la terre ou du sable ou une pierre, etc.
Al-mas'ala al-thalitha, mubtilatu al-tayammum. La troisième question, c'est qu'est-ce qui annule le Tayammum ?
وهي الأشياء التي تفسده ومبطلاته ثلاثة أولا يبطل التيمم عن حدث يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة أو حيض ونفاس فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه لأن التيمم بدل عن الوضوء والبدل له حكم المبدل وكذا التيمم عن الحدث الأكبر.
Bon, pour résumer, ils auraient pu le dire de façon plus simple, c'est que tout ce qui annule les ablutions ou ce qui entraîne le janaba, ça annule le tayammum. C'est-à-dire si tu as fait le tayammum et tu vas aux toilettes, bah, il faut que tu refasses le tayammum. C'est comme les ablutions. Ou alors si tu as un rapport sexuel, pareil, il faut refaire le tayammum.
ثانياً وجود الماء إذا كان التيمم لعدمه لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك وقد تقدم.
Aussi le fait de trouver l'eau. Si tu as fait le tayammum à cause du fait que tu n'avais pas d'eau et que maintenant tu as l'eau, eh ben tu ne peux plus faire le tayammum. Il faut faire tes ablutions. Conformément au hadith qu'on avait vu, où il a dit que la terre était la purification du croyant, même s'il ne trouve pas l'eau pendant 10 ans.
Thalithan zawalu al-udhri alladhi min ajlihi shuri'a at-tayammum min maradin wa nahwi.
Troisièmement, le fait que disparaisse l'excuse pour laquelle il faisait le tayammum. Donc par exemple quelqu'un il avait par exemple de l'eczéma ou une maladie ou du froid, il fait trop froid et il fait le tayammum à cause de ça, et après par exemple le climat il s'adoucit, donc là il doit refaire avec l'eau. Ou alors par exemple il a plus son eczéma ou il a plus sa maladie, donc là ou son infection, là il doit refaire. En fait, ce qui te permettait de faire le tayammum, quand il s'en va, le tayammum il devient nul, et il est plus permis et tu peux plus prier avec.
المسألة الرابعة صفة التيمم. La quatrième question, c'est de savoir comment on fait le tayammum.
Donc c'est beaucoup plus simple que ce que les gens y pensent. Il dit وَكَيْفِيَتُهُ أَنْ يَنْوِي ثُمَّ يُسَمِّي. Donc premièrement c'est d'avoir l'intention de tayammum, ensuite de dire bismillah. Donc ça c'est pas obligé, on l'avait vu, puisque c'est pas obligé dans les ablutions. وَيَضْرِبُ الْأَرْضَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. Ensuite il tape la terre avec ses deux mains une seule fois. ثُمَّ يَنْفُخُهُمَا أي يَنْفُضُهُمَا. Ensuite il souffle dedans pour enlever la poussière, ou alors il les frotte un peu. ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ. Ensuite il essuie avec ses deux mains son visage et ses deux mains jusqu'au poignet. لِحَدِيثِ عَمَّارٍ وَفِيهِ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ. Conformément au hadith de Ammar, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le tayammum se fait en tapant une seule fois pour le visage et les mains. Et les mains, il a dit al-kaffayn, donc ça veut dire la main jusqu'ici. Ça, ce hadith, il est dans le Sunan d'Abi Daoud, authentifié par Sheikh al-Albani. Ou hadith Ammar, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam a qala lah, innama kana yakfika an tasna'a hakada, fa daraba bi kaffihi darbatan ala al-ard, thumma nafadaha. ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Conformément aussi au même hadith de Ammar, mais la version qui est dans le Bukhari et Muslim, où Ammar il dit, en fait, ça c'est l'introduction du hadith, il dit on était en voyage et j'étais en état de janaba, et il connaissait pas, il savait que le tayammum ça existait mais il savait pas comment le fait, et il dit tamarrartu fi sa'id kama tatamarraru ad-dabba. Il dit, je me suis roulé dans la terre comme une bête elle fait. Ça veut dire, quand il a fait un qiyas, il a dit, comme le rousle, c'est tout le corps, eh ben, il faut aussi, comme je suis en janaba, que la terre elle touche tout le corps. Donc il s'est roulé dans la terre. Et quand il est revenu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète il lui a dit, il t'aurait suffi de faire comme ça. Et il lui a montré, il a dit, il a tapé une fois. Ensuite, il a enlevé le surplus en soufflant. Ensuite, il a frotté son visage et ses mains, c'est-à-dire l'extérieur de ses mains, comme ça, et c'est tout. C'est-à-dire, t'es pas obligé de taper deux fois, et t'es pas non plus obligé d'aller jusqu'au coude. Ou alors, comme certains ils font, ils frottent, comme si c'était du savon. Non, ce qui est voulu, c'est de passer dessus, c'est tout. Et aussi, il n'y a pas d'ordre. C'est-à-dire, si tu peux faire les mains, avant les, tu peux faire taper, et faire comme ça, et ensuite, parce que quand on regarde le hadith de Ammar, il a dit, les mains et, le visage et les mains. Mais le mot « et » en arabe, ça n'implique pas un ordre. Donc on ne peut pas en comprendre un ordre. Tout ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'il a fait le visage et il a fait les mains. Par contre, dans quel ordre? Il y a même une version du hadith qui dit au contraire, qui dit « les mains d'abord et le visage après ». Donc tout ça, c'est quelque chose de large, c'est pas quelque chose de dans lequel il faut exagérer. Après, si ce n'est qu'il a été rapporté d'Abdullah ibn Omar, donc si quelqu'un il fait ça, ça a une base quand même dans la religion, qui tapait deux fois. Il tapait une fois pour son visage, et il retapait, et lui il essuie jusqu'au coude, Abdullah ibn Omar. Donc celui qui fait ça, il n'a pas faux, puisqu'un compagnon du prophète il l'a fait. Donc c'est tout pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et le prochain chapitre, ça sera sur An-Najasat, c'est-à-dire les impuretés, comme l'urine et les excréments, comment on doit les nettoyer. Et aussi, donc ça c'est, on va le faire, ça sera vite fait, et après ça sera sur les règles, c'est-à-dire les menstrues des femmes. Et comme ça, la prochaine fois, on aura fini tout le chapitre de la purification. Après, on passera à la prière. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.